version originale.
And so translation might save us. Might. There is no promise. Because what we have learned through the multiplicity of languages is that concepts vary from language to language and become enriched when they are translated into another language.
Pourquoi n'essaies-tu pas de traduire toi-même et on commence à traduire un vers, deux, trois, quatre, et puis finalement on fait un va-et-vient d'un texte à l'autre et on produit un objet rare, un objet différent en tout cas, et qui donne beaucoup de plaisir à construire, à concevoir.
Le cinquième chapitre, le sixième chapitre, le neuvième chapitre, le douzième chapitre, le quinzième chapitre, le dix-septième chapitre, le vingt-troisième chapitre, le vingt-neuvième chapitre.
C'est tellement mystérieux la traduction d'un livre. Et c'est tellement passionnant la vie des artistes de la traduction. Pour ses 50 ans, l'Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada a lancé un balado intitulé « La version originale » dans lequel moi, Jeanne Auclair, je vais à leur rencontre. Le 1er octobre 2025, à la bibliothèque du Plateau Mont-Royal, je me suis entretenue avec Wana Avasilikiai devant public. C'est elle qui a créé les musiques de cet épisode et aussi des autres de la série. En introduction, vous avez entendu Alberto Manguel et Nicole Brossard. Bonne écoute. Alors, Wana, bonsoir. Merci d'être avec moi.
Bonsoir, bonsoir. Merci, Jeannot.
Ça me fait plaisir de te rencontrer et puis de discuter avec toi, de présenter ton œuvre foisonnante aux gens qui sont avec nous ce soir puis aux gens qui pourront nous réécouter en balado. Donc, en résumé, hein, encapsulé ton parcours, tu es né en Roumanie en 1977. Tu es arrivé au Canada à l'âge de 10 ans. Tu as publié 7 recueils de poésie qui t'ont valu, entre autres, le prix A.M. Klein de poésie. Tu as publié un libretto, 11 traductions plus, si on compte, des projets collaboratifs.
Oui, je pense.
Environ. Des traductions qui t'ont valu le prix de la Fondation Cole, le prix littéraire du gouverneur général en traduction du français à l'anglais. Tu as fait plusieurs œuvres sonores pour lesquelles tu as tout récemment remporté le prix international de littérature Bernard Heidsieck du Centre Pompidou. Et je lis cette phrase de leur éloge qu'ils ont composée sur toi. Wana est une véritable artiste intermédia qui entremêle la poésie, le son, la performance, la photographie et la traduction pour sonder et dérouter les structures polyphoniques du langage et les frontières de l'écoute et du sens. N'est-ce pas?
Je sais.
Voilà. Ça fait beaucoup à porter. Il y a énormément de fils à démêler pour présenter la richesse de ton parcours puis toutes les cordes qu'il y a à ton arc. On ne pourra pas parler de tous tes projets ce soir. On va se concentrer sur la traduction, mais ça touche tellement à l'ensemble de ton travail qu'on va aussi quand même beaucoup parler de ton œuvre de création. Alors, je voulais commencer par une petite traduction surprise, justement. Alors, il y a tellement de choses dans ton parcours qui ont à voir avec le dédoublement, avec le doublage, avec le fait de voir sa propre voix comme celle d'une autre personne, ce qui est tout à fait lié au travail de la traduction. Alors, je vais ouvrir en te lisant tes propres mots sur l'importance de l'écoute, mais dans une traduction en français que tu connais donc pas. Et on va voir si tu t'entends toi-même ou si tu t'entends avec toi-même une fois passé le détour de la traduction. Donc, je te cite... Écoutez, c'est une relation entre le soi et ce qui lui est extérieur, entre le soi intérieur et le soi extérieur. Écoutez, c'est peut-être même notre relation la plus importante. Ça forme et informe notre connexion au monde. Ça permet l'empathie avec ce qui est séparé du soi, distinct, autre. Écouter, alors, c'est offrir ou inventer des façons d'entrer en relation, de se connecter, mais c'est aussi révéler l'impasse, l'incompréhension, le chiasme, la discorde, la divergence, la différence.
Oui, je m'en reconnais. Merci pour la traduction.
Alors, c'est un texte que tu as publié dans le cadre d'une résidence que tu as fait avec Rhizome.
Oui, c'est ça. Oui, surtout sur mon parcours en lien le sonore et la performance, qui est soutenue par la littérature et tous les jeux de traduction que je fais.
Oui, puis ça m'intéressait qu'on commence en établissant tout de suite que pour toi, le sens essentiel, c'est l'écoute. Quand on a fait la longue conversation qui nous a permis de préparer l'entretien d'aujourd'hui, j'ai tout de suite remarqué, je le savais à cause de ton œuvre, ta sensibilité au son, mais je l'ai remarqué aussi dans la façon dont tu étais dans ton entretien, que tu entendais tous les bruits de la ville et que les bruits qui étaient autour de nous influençaient beaucoup ta sensibilité. Je les sentais passer à travers toi. Alors, est-ce que tu as l'impression que l'écoute, c'est le sens qui t'a amené vers la pratique artistique dès ton enfance puis ton adolescence, ou t'as réalisé plus tard que c'était si central pour toi?
Ça, c'est une super intéressante question. Je ne l'ai jamais pensé comme ça exactement, mais je pense qu'il y a une vérité dedans, que je peux dire ça parce que je suis devenue consciente du langage. Mm-hmm. D'un âge très jeune, à 10 ans, quand j'ai parti de Roumanie et venu au Canada, et j'ai appris anglais à ce moment-là, mais dans une façon très consciente, parce que je n'étais pas trop jeune, et assez enfant pour que je comprenne qu'il y a une chasme entre les deux langues, et que la langue est tellement une chose inventé, toujours en développement, toujours active, toujours on le produit, on l'assimile, on le produit, on le change tout le temps. Mm-hmm. C'est l'écoute en ça fait une partie super importante.
Ouais.
Oui, donc...
c'est intéressant parce que l'écoute a été importante pour toi, mais pas simplement l'écoute de la musique. T'sais, on va souvent entendre des musiciens dire ça, mais pour toi, c'est beaucoup plus large.
Oui, c'est plus l'écoute en général, ouais. Je dirais, mais c'est sûr, avec les années, je m'intéresse à la musicalité des différentes langues, parce qu'ils ont tous une autre sorte de musicalité, mais je m'intéresse aussi à la musique et tout ça, mais ça, c'est probablement advenu un peu plus tard, pas du début.
Oui. Pardon, je découvre en même temps que toi les sons de la bibliothèque autour de nous.
Ça,
justement, on parle d'écoute.
C'est un espace vivant.
Oui, c'est ça. Exactement. Donc, prenons le temps de présenter un peu ton parcours biographique. On y a déjà un peu touché. Donc, quand tu es arrivé au Canada à 10 ans, tu étais à ce moment-là unilingue, comme tu viens de le dire. Tes parents ont appris l'anglais à leur arrivée ici.
Aussi, oui.
Et ta mère enseignait les langues, enseignait la littérature quand elle était en Roumanie, puis elle a fait complètement autre chose quand elle est arrivée ici. Et donc, pour toi, l'apprentissage de la langue s'est fait d'une certaine façon beaucoup plus rapidement et naturellement que celle de tes parents.
Oui, mais c'est aussi parce qu'eux, ils ont eu besoin de commencer à travailler pour gagner l'argent, pour qu'on peut vivre. Donc, il y avait d'autres... Moi, je peux aller à l'école.
Ouais.
Donc, moi, c'était... La première année, j'ai passé comme le premier début de cette année scolaire, c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Le deuxième... partie, c'était un peu un mélange d'aller à la classe, les classes normales de mon âge, et de continuer à apprendre anglais. Mais après le premier an, je suis allée dans les classes normales. Donc, j'ai pas raté une année comme ça,
ouais.
mais j'ai appris l'anglais en même temps. C'est sûr que j'avais un accent plus fort à cette époque-là. J'ai un accent dans toutes les langues que je parle, en fait. Parce,
ouais.
parce que toutes sont touchées par les autres. Même en anglais, probablement en anglais, l'accent est le plus subtil.
Ouais.
Mais quand même, il y a un accent qui reste, qui vient un peu des autres langues.
J'aimerais qu'on parle un peu du roumain anglicisé de tes parents, parce que j'ai trouvé ça tellement beau, la façon dont t'en parlais. Que tes parents ont gardé une certaine communauté roumaine parce que ta tante avait déménagé 10 ans, je crois, avant tes parents.
Oui, c'est ça, oui.
Mais ils parlent en anglais la plupart du temps, mais un anglais plein de mots roumains ou un roumain plein de mots d'anglais.
Ils parlent avec leurs amis roumains, mais qui sont tous, à cette date-là, sont tous des gens qui habitent au Canada depuis comme 40 ans, 50 ans, donc une grosse partie de leur vie. Mais ils parlent un roumain... parce qu'ils habitent à Vancouver, sur la côte ouest, donc ils parlent un anglais vraiment anglicisé. Mais ils ne se rendent pas compte. En fait, c'est un roumain, excusez-moi, pas un roman anglicisé, mais il ne se rend pas compte parce que c'est un roman qui s'est développé entre eux avec des mots, par exemple, ils utilisent des mots anglais, mais sont conjugués comme le roumain, des verbes, par exemple. C'est un mot anglais, mais il donne un accent roumain. Donc, ça sonne bizarrement, mais pour eux, c'est un mot roumain en ce moment-là, quand ils parlent.
Ouais. Ouais, c'est ça. On va parler plus tard du poète Paul Celan, parce qu'il y a eu une importance dans ton parcours, mais je trouvais que le jeu avec le nom de Paul Celan était intéressant, puis je me demandais si toi et ta famille, vous aviez vécu quelque chose de similaire, tu sais. Bon, alors, Paul Celan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un poète qui est né dans un territoire qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui était à l'époque la Roumanie, mais qui a passé l'essentiel de sa vie dans le monde germanophone et francophone. Donc, très vite, parce qu'il avait un nom un peu compliqué à prononcer, il s'est mis à changer son nom plusieurs fois jusqu'à ce qu'à le fixer finalement sur Paul Celan, qui était une inversion des syllabes du nom roumain.
Oui.
Mais parfois, quand on entend des gens de culture roumaine ou alors de culture est-européenne en général parler de lui, ils vont reprononcer le Celan comme si c'était un mot roumain, puis on l'entend des fois dire Paul Celan, mais au fond, c'était même pas le nom roumain.
Non.
Donc, c'est comme un jeu de vouloir montrer qu'on connaît la culture, mais alors que le nom avait été choisi pour être francisé.
Oui, je pense, oui.
Est-ce que dans ta famille, il y a eu des jeux comme ça? Est-ce que tes parents, à un moment donné, ont pensé changer le nom de famille pour en simplifier la prononciation au Canada? Ou...
Eux, non, mais quand on était arrivés au début, ma tante leur a suggéré à mes parents de changer mon nom, mon prénom, en fait, Wana. et leur suggestion à l'époque était Wanda. Et moi, j'ai dit non, c'est impossible. J'avais 10 ans, mais pour moi, c'était comme non, je ne le vois pas. Mais ça, c'était le seul. En fait, parce que les prénoms de mes parents sont plus. Ça va plus facilement en anglais, en tout cas. Donc. Ça va. Et avec le nom famille, non, ils n'ont jamais pensé de le changer. Et moi non plus. Avec le temps, je sais que c'est comme un peu impossible, mais je vais avec.
Ouais.
Je ne sais pas. Je me sens un peu trop tard à ce moment de changer.
OK, oui. C'est ça.
Ouais.
Mais c'est quand même intéressant parce que peut-être à travers la pratique d'autres poètes que tu as rencontrés, on va y revenir, l'hétéronyme a pris quand même une place dans ton parcours. Tu as créé des hétéronymes parfois pour certains textes avec Erin Mouret.
Oui, un peu dans ce livre-là. Ouais. J'ai pas comme énormément travaillé avec ça, juste un petit peu, et c'est surtout dans ce livre. Mais c'est une chose qui m'intéresse dans d'autres auteurs, c'est sûr.
Alors, reprenons le fil de ton parcours. On était à ton adolescence. Alors, tu commences à étudier la création littéraire à Vancouver. Et c'est plus tard, en faisant une immersion au Québec, à l'Université Laval, que tu décides que le Québec t'appelle et que tu vas venir t'installer ici pour la maîtrise à l'Université Concordia. Finalement, tu vas passer presque le reste de ta vie entre Montréal et New York. Mais je reste un instant avec toi dans ce premier programme de création parce que je trouvais ça très drôle, la façon dont la traduction est arrivée dans ta vie. Raconte-moi comment tu t'es inscrit au programme.
Oui, donc, c'est ça, c'était création littéraire à l'Université de Colombie-Britannique. Et à cette époque-là, il faut que tu aies trois genres. Donc, tu écris dans trois genres et pour le troisième genre, quand j'étais comme au bureau pour les choisir, la personne m'a dit, toi, tu parles une autre langue, tu peux faire la traduction. Parce que la traduction littéraire était un des genres. Et j'ai dit, ah oui, c'est une bonne idée. Je vais laisser. Et donc, j'ai commencé avec de traduire une poète roumaine à Nikita Stănescu dans mes classes de traduction littéraire là-bas. Donc, ça, c'était autour de... J'avais 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça.
Et est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de cœur de lectrice au moment des études, quand tu étais encore dans le monde anglophone, avant de commencer à penser que la traduction allait nécessairement faire partie de ta vie professionnelle?
Mais je lisais beaucoup. beaucoup, assez largement. Mm-hmm. Je pense qu'on ben, toujours, j'aimerais toujours lire dans différents... je ne lis pas juste la poésie ou pas juste les romans ou pas la philosophie. Donc, ça... Il y avait comme trop...
Toute la bibliothèque.
Ça, ouais, je ne sais pas. Oui, de nommer une personne, ça limite un peu... Oui, oui. La variété, peut-être. Oui.
Je comprends. Bien, alors, concentrons-nous sur ta première traduction du roumain. Donc, j'ai apporté le livre ici pour pouvoir le montrer. Ah, c'est le tien. Oui. Alors, Nikita Stanescu, qui est un grand poète roumain que tu as offert en traduction anglaise, malheureusement, dans une maison d'édition qui, ai-je lu après, est disparue quelques années avant la pandémie. Je ne sais pas si ton livre est encore disponible ailleurs ou si...
Non, c'est disponible sur mon site web de chez moi.
OK. Parfait.
Ouais.
Et parle-nous un peu de cet auteur-là, de l'importance qu'il a eu pour toi, puis pourquoi est-ce que tu as eu l'occasion de le traduire?
Mais c'est un grand écrivain roumain des années... entre les années 50 et 80 à peu près. Et comme il a écrit pendant une période, ben, la période communiste, de communisme en Roumanie, les façons dont il parlait des choses sociales ou historiques ou politiques même, c'était toujours un peu caché. Il est caché dans les... Il allait très loin, il est allé très loin dans l'histoire, ou il inventait des fables. Mais des fois, c'est comme une sorte de critique des choses, mais c'est très subtil et c'est très dans des sous-entendus. Et ça, j'ai trouvé intéressant.
Est-ce que ça faisait partie de la bibliothèque de ta mère, comme elle enseignait?
Oui, oui, ça faisait partie de la bibliothèque de mes parents aussi, les livres. Mon père aussi a toujours aimé la poésie. En fait, quand j'étais jeune, il me lisait la poésie avant de me coucher. Au lieu de... Des fois, ce n'était pas les contes, c'était la poésie.
Le régime politique terrible en Roumanie dans ces années-là a contribué à l'immigration de ta famille, ou d'une certaine façon, c'est de ce que j'ai compris?
Oui, c'est sûr. Mais aussi, comme on avait déjà... une tante, une partie de famille déjà installée au Canada, c'est aussi un peu eux qui ont convaincu mes parents de faire cet changement. Mais c'est sûr qu'ils ont fait... Les années 80 étaient très dures. Les années très dures dans toute l'Europe de l'Est, pas juste la Roumanie, mais c'était une période vraiment... de noirceur, je dirais.
Oui, c'est ça. Mais j'y reviens à cause de l'auteur dont on parle, parce que tu dis qu'il y avait une façon d'encrypter le message politique. Donc, est-ce que pour ta mère qui enseignait, qui aimait les langues, est-ce que la littérature était un lieu où on pouvait aller chercher une certaine liberté de pensée? Est-ce qu'il y avait une part engagée de l'imaginaire de tes parents qui passait par la littérature, tu crois?
Oui, peut-être,
mais
parce que j'étais très jeune à l'époque, donc même si c'est vrai, j'étais pas nécessairement très consciente. Ils ne sont pas des gens très politiques ou engagés très politiquement. Ben, ils s'intéressent dans la politique, mais ils sont pas comme super. Ils parlent beaucoup de la politique en fait, mais c'est plus. Ils ne sont pas des militantes.
Oui. Oui. Ben, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué de l'être quand, à une certaine époque, ça pouvait avoir des conséquences terribles, j'imagine.
Oui, c'était...
C'est peut-être pas un cadre où on
est
tellement encouragé à être la première personne
c'est
dans
ça.
La rue.
Oui, mais le courage était plus de comme complètement changer leur vie.
Oui, mais oui.
De passer d'un pays à l'autre, ouais.
Alors, revenons à ce livre, « Occupational Sickness », selon le titre que tu lui as donné en anglais. Quels ont été les défis de cette première traduction-là?
C'est ça. Peut-être à l'époque, c'est vraiment dans le passé un peu pour moi. C'est sûr de la traduction de ce livre-là, comment partager cette subtilité, ces sous-entendus, comment le re-imaginer en anglais. c'est sûr que la musicalité de la langue, de sa langue, comment transformer ça en anglais. Mais c'était aussi comme un peu, en faisant ce travail-là, c'était un peu comme une formation pour moi aussi, oui. Une formation en la traduction. Donc, c'est comme un peu, le livre m'a appris. Ben, tous les livres m'apprennent mm-hmm. ça, en fait. Tous les livres que je traduis m'apprennent comment traduire.
Est-ce qu'il y avait une figure qui avait une grande maîtrise du roumain près de toi à ce moment-là qui a pu te conseiller ou qui t'a servi de guide?
Non.
Ça a été très autodidacte.
Oui. Non.
Mais au fond, ça t'a peut-être aussi donné les armes parce que tu as été très autodidacte après dans tous les aspects de ton parcours. Tu as donné la confiance.
Oui, ben, j'ai toujours comme quelques appuis ou quelques comme repères mm-hmm. Que j'apprends un peu, mais après, je continue l'apprentissage chez moi. Oui.
Alors, ce livre-là, tu vas le traduire sur plusieurs années.
Oui, parce que c'était pendant
quand il paraît.
Pendant les années de mes années d'université.
C'est ça. Donc, tu viens faire une maîtrise à Montréal. Finalement, tu y restes. Tu reprendras des études en traduction, je crois, que 10 ans plus tard,
ouais,
vers 2012.
Oui, c'est ça. 12 ans plus tard.
Donc, tu avais déjà eu l'occasion de dire une praticienne, de traduire avant des livres de l'anglais, du français à l'anglais.
Je me souviens plus si j'avais déjà traduit. Oui, je pense que peut-être un livre avant cette que j'ai fait. J'oublie en fait un peu les dates, mais j'avais déjà commencé la traduction commerciale.
Oui.
Un peu les livres, mais pas beaucoup avant cette date-là. Mais je suis retournée pour faire cette diplôme en traduction pour développer un peu plus mes compétences.
Qu'est-ce que tu crois que ça t'a apporté, la traduction commerciale? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ça a été comme une étape essentielle pour te préparer à après faire une traduction littéraire, ou ça a été une sorte de détour ou juste un gagne-pain?
Non. Je pense que c'était important parce que surtout au début, dans les premières années, je traduis dans beaucoup, beaucoup de différents domaines. Et chaque domaine a un autre lexique, une autre façon mm-hmm. de penser. Et ça, c'est intéressant, même si c'était un manuel de mathématiques. Mais c'est intéressant. Mm-hmm. Ou une guide de tourisme. Très différent. mais avec le temps, je me suis un peu spécialisée ou canalisée un peu surtout sur les... je traduis beaucoup dans les arts visuels, mm-hmm. Et un peu le théâtre, le cinéma. Donc, dans les derniers 10 ans, c'était au moins 10 ans, c'est vraiment dans ce domaine-là que je me suis... et j'aime ce domaine-là comme... Donc, pour moi, ça marche bien avec, ouais. Avec les autres, la traduction littéraire, mais aussi mon écriture et mm-hmm. tout le reste.
Oui, on n'a pas encore abordé ton immense parcours là, de poète puis de créatrice, mais j'ai l'impression, à avoir un peu baigné dans tes œuvres et ton parcours cette dernière semaine, que pour toi, tout tes matières à création, les liens se font très, très vite pour toi. Et je t'imagine très bien aller faire de la traduction commerciale puis, au fond, avoir plein d'idées qui viennent, des thèmes qui apparaissent. J'ai l'impression que tu as un rapport très ludique aussi aux différents matériaux qui existent.
Oui, je trouve... Ben, pour moi, c'est ça. Le langage est un matériel mm-hmm. vivant. Et j'aime beaucoup, mais surtout dans mes livres, j'explore toutes sortes de discours, toutes sortes, parce que pour moi, je veux essayer, explorer différentes façons en penser, finalement. Donc,
mm-hmm. Oui, tout à fait.
Donc, c'est ça aussi. Connaître d'autres langues veut dire, en première, penser différemment, parce qu'on pense différemment dans chaque langue.
Et donc, quand tu as enfin l'occasion de traduire un second livre, cette fois-là, ce sera du français vers l'anglais, ta carrière de poète est déjà commencée.
Oui.
Donc, ça se passe
oui.
vraiment toujours comme en multipiste, pour reprendre une image que tu vas utiliser dans un de tes livres.
Ouais,
ça se passe toujours en même temps. Donc, quand tu traduis ton premier livre, cette fois-ci, depuis le français, est-ce que c'est un énorme défi? Est-ce que la première fois, c'est très long? Ou tout de suite, c'est comme un travail dans lequel tu te sens bien, puis tu dis, ah, j'espère que ça va accompagner mon travail de création?
Oui, en fait, je pense que chaque livre que j'ai traduit était comme un défi différent. Mais c'est sûr que j'ai le livre de Nikita Stănescu, mm-hmm. comme c'était un livre de poésie, des poèmes individuels, ça c'est différent de traduire un roman, parce que c'est tout un autre sorte de... on vit dans un monde plus large. C'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses la première fois que j'ai traduit un roman. Même si ce n'était pas comme un roman complètement... la plupart des livres en prose que j'ai traduits sont... En anglais, on dirait « plotless novels
». Oui, c'est des aventures dans la langue.
Oui, c'est en plus les aventures de la langue que d'une narration, une histoire. Il y a des personnages, mais pas toujours comme une narration très fluide. Mm-hmm. Mais quand même, c'est un monde langagière, c'est un style, il y a une voix.
Mm-hmm.
Et tout ça, c'était aussi d'apprendre combien de temps j'ai besoin pour la première version, c'est mm-hmm. quoi mon processus, en fait, mm-hmm. Parce que je ne le savais pas avant de le faire pour la première fois, oui.
Et puis, d'une certaine façon, il faut le réinventer à chaque livre.
Absolument, oui, parce que chaque livre demande des choses différentes de nous, je pense. Mais je peux avoir comme une meilleure idée combien de mois ça va me prendre ou combien d'heures par jour j'ai besoin ou des choses comme ça, comme des choses plus pratiques peut-être que je ne savais pas au début.
Alors... j'avance dans ton parcours à la rencontre d'une personne, une autre traductrice, créatrice, qui va être très importante pour toi, qui est Erin Mouret, avec qui tu vas éventuellement aussi écrire un livre, carrément, et qui plus tard deviendra ta traductrice aussi, vers le français. Donc, une présence très importante pour toi. J'aime beaucoup l'anecdote du premier événement public que vous avez fait ensemble autour de Little Theatres. Tu veux nous raconter ça?
Oui, c'était... mais en fait, on s'est rencontrés plus... c'est ça, c'était un lancement pour son livre Little Theatres. Mais après ce lancement-là, elle était invitée pour... c'était une maison de la culture, j'oublie lequel, mais pour faire une entrevue sur son œuvre. Et les gens qui organisaient le truc l'ont dit, mais tu peux nous dire... ce qui tu veux qu'il fait l'entrevue. Mm-hmm. Et elle a pensé, mais je préfère avoir une conversation au lieu d'avoir une entrevue. Donc, elle m'a invitée à cette époque-là. Mais on a eu finalement une conversation, pas juste sur son travail, mais aussi sur mon travail. Mais c'est sûr qu'à ce temps-là, j'avais publié juste un livre de traduction. Moi, j'étais plus jeune, donc...
mais elle a senti qu'il y avait un dialogue fécond qui allait suivre
Oui. Et on avait comme une... C'était sur les idées, les choses comme ça. C'était pas juste comme le travail. Les idées qui viennent du travail.
Alors, Erin, qui est souvent à Montréal, et pas à Montréal en ce moment, elle est à Vancouver pour le travail, mais elle a tenu à t'envoyer ceci.
Wanna have a silica way? Oui. Elle a été très importante dans mon propre parcours de traductrice, écrivaine, collaboratrice, poète. On se connaît déjà 20 ans ici à Montréal. C'est une personne de générosité et de gentillesse. On s'encourage et prend beaucoup de joie au succès de l'autre. Mais elle est féroce aussi, je dirais. Elle démolit les stéréotypes et les limites avec cette férocité généreuse qu'elle a. Et elle habite la polylingualité, ce qui est autre chose que le multilingue ou le bilingue. On est quelqu'un qui ose faire autrement. Et sa propre fabrique ou faire se dirige vers cet autrement. Car on ne sait jamais à l'avance ce qui va nous arriver. Comme j'ai l'habitude à dire, la langue va nous montrer ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle est déjà devenue parfois. Et de nous, il nous faut simplement une écoute, une attention pour apprendre. Le langage même va nous enseigner quoi faire. Wana est toujours dans cet apprentissage, car c'est là, dans l'apprentissage continu, que nous viennent des connaissances, des surprises, des nouvelles vies qui deviennent nos possibilités, et l'envers, les possibilités qui deviennent nos vies. Mais elle m'a encouragée aussi, et dans mes pires moments, des moments difficiles à vivre. Elle m'a donné la poésie de Stanescu, par exemple. C'est pas rien ça, c'est beaucoup déjà. Merci, Wana.
Oh wow, quelle belle surprise!
C'était bien qu'il y ait une surprise liée à la voix ou qu'on ait une présence par la voix quand même.
Oui, oui, oui.
Ça résonnait bien aussi avec votre travail à toutes les deux. Bon, évidemment, Erin, fidèle à elle-même, nous donne beaucoup à penser, puis beaucoup de belles images, beaucoup de formules qui aident vraiment à réfléchir à ton travail. Bon, elle dit qu'elle est féroce. Je ne te demanderai pas de commenter ça parce que c'est toujours un peu difficile de commenter les compliments qu'on nous envoie. Par contre, ce qu'elle dit sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est que pour elle, tu es une personne polylingue et pas multilingue ou bilingue. Est-ce que tu as une idée pourquoi elle fait cette distinction-là?
Oui, je pense qu'elle dit ça parce que l'anglais avec que j'écris toujours, c'est, pour moi, c'est un anglais hybride par les autres langues que je parle. Donc, je fais toutes sortes de... j'essaie toutes sortes de choses de montrer une influence possible des autres langues dans l'anglais. Donc, déjà, ça veut dire que même une langue devient varié ou même avec l'extrait que tu as joué au tout début.
Oui. Ça, une de tes premières œuvres sonores.
C'est ça, et ça vient d'un texte que j'ai écrit dans un anglais qui est un peu médiéval, mais influencé par le français médiéval.
Oui.
Mais contemporain aussi, c'est parce que c'est une œuvre contemporaine. Donc, j'ai mélangé ce niveau ou une certaine historicité de la langue. Donc, mm-hmm. Je pense que ça, c'est une des raisons peut-être qu'elle
dit. Oui, tout à fait. Puis, les historiens de la langue que nous ne sommes pas, toi et moi, mais que nous pouvons lire un peu et apprendre grâce à elle et à eux, nous apprennent que ce sont des langues qui ont grandi côte à côte et qui se sont influencées depuis assez longtemps.
Oui, oui, oui.
Pour que parfois on puisse penser, dire quelque chose en français, puis apprendre que si on fait des recherches, bien, la structure de ce qu'on a dit avait été un emprunt à l'anglais ou le vocabulaire.
Oui, et les langues ne sont jamais pures.
Ouais.
Je ne crois pas en pureté en général. Mais même le roumain, qui est une langue latine, qui a la grammaire, la structure grammaticale du roumain, en fait, est plus proche du latin que toutes les autres langues latines.
Ah oui.
Mais il y a la langue a un vocabulaire vraiment large qui vient des langues slaves, turques, toutes les langues qui, hongrois, les langues qui... la roumaine entourée. Donc, le son de la langue est le moins latin, même si la structure est le plus latin. Donc, ça, c'est une sorte de paradoxe, peut-être. Mais c'est ça, parce que des fois, des gens ne savent pas que roumain est une langue latine, et c'est à cause de la musicalité, mais c'est à cause du vocabulaire dans la langue, du lexique, les noms. surtout les noms, ouais. qui viennent de beaucoup d'autres langues qui ont vraiment une autre racine. Mm. Donc,
mais on sait bien, dès qu'on on étudie un peu les artistes issus de la Roumanie, qu'il y en a énormément qui ont œuvré en France, qui ont travaillé en français. Il y a beaucoup de contacts aussi.
Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Qui s'est passé dans le monde contemporain.
Oui, oui.
Mais si on revient à ton parcours à toi, puis au fait que le roumain était ta langue maternelle, c'est très intéressant en réfléchissant à ton parcours. C'est comme si tu étais une des exceptions, parce qu'il y en a quand même d'autres, à la règle qui veut que tous les traducteurs, traductrices littéraires traduisent depuis leur langue vers leur langue maternelle, pardon. Peu importe de quelle langue, mais toujours vers leur langue maternelle. Alors que toi, la plupart de tes traductions sont vers la deuxième langue qui est arrivée dans ta vie.
Oui.
Mais comme tu traduis depuis le français, ben le français est une langue latine comme le roumain. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose, toi, dans ton parcours qui était juste un peu à côté de cette équation-là,
ouais,
mais qui
ouais.
t'avait aussi bien outillé.
Oui. Mais c'est aussi que j'ai commencé à apprendre français d'un point de vue anglophone. Donc, ouais. Donc, au début, j'ai pas... Dans ma tête, parce que j'étais dans un contexte anglophone, anglais, la traduction que j'ai faite dans ma tête, c'était plus des mots anglais vers le mot français, pas des mots roumains qui... C'est plus facile, en fait, de le faire,
oui,
mais
plus
parce
facile.
Que j'étais pas dans un contexte roumain, je pensais plus en anglais après en français. Mm. Mais c'est sûr que peut-être plus consciemment, avec le temps, je joue entre les,
oui.
ces trois langues-là. Oui.
Je nous ramène vers ta collaboration avec Erin. Donc, la discussion entre les deux artistes traductrices que vous êtes a été si féconde que très vite, vous vous êtes mis à travailler ensemble. Je pense que vous avez fait des lectures ensemble. Je pense qu'Erin a été importante aussi dans ta compréhension du plaisir du multipiste ou du multivoix dans le son.
Mais c'est parce qu'on a écrit ce livre ensemble,
voilà.
Expeditions of a Chimera, qui était aussi arrivé un peu par hasard, comme on a commencé, je dirais organiquement, comment le... mais après, qui est aussi un livre qui implique beaucoup la traduction ou les jeux de traduction et qui met les limites entre c'est quoi l'original et c'est quoi la traduction en question.
Voilà. Donc,
parce
vous avez créé des personnages.
Oui, et c'est très difficile de savoir c'est quoi la traduction, c'est quoi l'original dans le livre. On met ça en question.
Et c'est aussi impossible de savoir qui a écrit quoi.
C'est aussi impossible de savoir qui a écrit quoi. Mais après ça, on a fait des lectures de ce livre-là à l'époque. Et parce qu'on était deux et on a fait des lectures à deux voix, je me suis rendu compte que les possibilités sont vraiment plus larges quand il y a deux personnes pour avoir toutes sortes de doublures ou des volumes différents. Mm-hmm. Et c'est après ce temps-là... Ben, c'était pas la seule chose, mais une des choses qui m'a... Après ce temps-là que j'ai commencé plus à expérimenter avec la technologie pour que je peux arriver à faire des lectures qui sont plus multiples et mm-hmm. plus que c'est pas, je suis pas comme juste là avec une seule voix, ouais. parce que surtout dans mes livres, pour moi, j'écris beaucoup la page tout entière. C'est pas juste... il y a une certaine architecture de la page et des fois, pour moi, parce que la page est assez, comme j'ai dit, pour moi, multiple, après, juste le lire à une voix, pour moi, c'était d'aplatir celui-là. Donc, mm-hmm. je voulais le traduire.
Oui, c'est vrai. Autant dans ton
dans
livre avec Erin,
oral.
Autant oui. dans ton livre avec Erin que dans les autres, dans tes livres, les personnages se multiplient. Donc, c'est vrai qu'on aurait toujours envie, si on le lisait à haute voix, d'avoir une multiplicité de voix pour incarner ce livre. Je me suis amusé, encore une fois, avec la traduction, à faire une petite traduction rapide d'une page d'Expédition d'une chimère qui a malheureusement pas encore été traduite. Vous allez voir tout de suite le jeu sur la fausse identité.
Et qui est déjà dans 3 langues.
Oui, en effet, mais là, je me suis simplifié la vie quand même. J'ai pris une page...
Anglais.
Voilà. Le spectre des langues que je maîtrise est un peu moins large que le tien, donc je m'en tiens dans une zone de confort. Mais vous allez voir, tout le plaisir est là dans cette page-là. Cher N, tu m'as demandé si changer de langue est aussi facile que de changer de passeport. Tu me l'as demandé dans notre langue. J'ai lu quelque part qu'on appelle impostrice une personne qui prend la place d'une autre. L'identité est comme un nuage qu'on aurait tiré du sol. Voici ma réponse dans un passeport. Demain, je deviendrai à nouveau une citoyenne des aéroports. Dans ce non-lieu où je ne suis pas, s'il te plaît, fais-en ce que tu veux. Signé E accent aigu. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là de disparaître dans le passeport et de l'idée de changer de langue et aussi l'idée que la réponse à la question philosophique de l'identité dans la langue, tu y réponds avec le faire. La réponse, c'est pas une donnée abstraite, c'est un « on va la faire ensemble ». Je compose la lettre.
Ouais. Un acte.
Un acte.
Une action.
Ben voilà. Puis je trouvais que, encore une fois, ça nous permettait de parler d'un autre aspect de ton travail en général. J'ai l'impression que tu as toujours besoin de faire pour les choses se font dans l'expérience. Tu sais, on discutait ensemble de la raison pour laquelle il t'a fallu un studio à un point. Mm-hmm. Et puis tu me disais, c'est parce que quand je travaille, il y a un moment où j'ai besoin d'espace pour faire. Parce que c'est dans l'acte que les choses se créent, tu sais.
Oui, oui, c'est sûr. Surtout avec le travail comme plus performatif sonore que j'ai fait à date, c'est vraiment par une exploration physique, matérielle, que les choses se développent ou que ça me donne des idées ou que ça je peux arriver à des compositions ou c'est en faisant, en fait, c'est en... en essayant des choses.
Voilà, là où un philosophe nous proposerait une réponse construite sur quel est le rapport entre la langue et l'identité, ben toi, ce sera une œuvre multidisciplinaire qui va
peut-être
multiplier les pistes et traces, qui va acter la réponse à cette question plutôt que vraiment dans une perspective de recherche-création.
Ouais. Mais je pense aussi que le langage peut aussi faire juste lui-même, en soi. Donc, c'est pas nécessaire que...
Ah, mais j'y pensais pas dans un ordre hiérarchique, hein? Je crois pas que tu hiérarchises beaucoup ces choses-là quand même.
Non, c'est
ça. Puis j'ai vu qu'à un moment, ce qui s'est invité aussi dans ton parcours de création, c'est la photographie qui est venue encore ajouter une autre altérité dans tout ça. Puis je pense que ton père faisait de la photographie aussi.
Oui, un peu comme un hobby, oui.
Et toi, dans ta vie, c'est revenu comment dans ta pratique d'artiste?
Je pense que j'ai un sens visuel. J'ai une appréciation des choses visuelles et c'est plus je ne sais pas si je peux même nommer comme parce que ça a développé naturellement avec le reste. Je peux pas comme nommer comme une date quand je des fois, je peux faire des choses plus visuellement, peut-être que dans les mots, où j'essaie de le faire dans les mots, mais ça ne marche pas exactement. Donc, j'essaie de le faire visuellement. Une exploration, disons.
Alors, justement, parlons d'un autre de tes projets postérieur à celui avec Erin, dans lequel il y a à la fois de la traduction, donc on va revenir tranquillement vers la traduction, et de la photographie, qui est Limbinal, qui est ce fameux projet avec Paul Celan. Hein, j'avais annoncé qu'on allait y revenir. Donc, Paul Celan, je l'ai appris grâce à toi, a très brièvement dans sa vie revécu en Roumanie et écrit quelques poèmes en roumain.
Mais c'était parce que Il était en Roumanie pendant la Deuxième Guerre. Ben, il était dans un camp, évidemment, parce qu'il est, il est juif. Donc, mais il a survécu. Il était une des seules personnes de sa famille qui a survécu. Et il était en Roumanie, je pense, pour 45, 46, peut-être jusqu'à 47, quelque chose comme ça. Donc, pendant cette période-là, avant qu'il ait déménagé... Il était allé en première, je pense, à Vienne et après, éventuellement, à Paris, où il était pour le reste de sa vie. Mais il a écrit quelques poèmes, quelques textes en roumain.
Et les traductions auxquelles tu avais eu accès ne te convenaient pas de ces textes-là?
Oui.
Mais c'est bien, il faut le dire. C'est
oui,
comme,
oui,
parfois,
oui.
C'est comme c'est ça qu'on a envie de traduire.
C'est ça, parce que ben, c'est sûr aussi, parce que lui, il est un grand poète qui était traduit dans énormément de langues, mais c'est sûr... Il a écrit surtout en allemand, c'est ça son œuvre. Son œuvre habite en allemand, mais il existe quelques œuvres très jeunes. Il était jeune. Mais oui, il y a quand même un sens de ses œuvres de plus tard, même en allemand. Mais
dans le sens qu'en germe dans ses poèmes.
Ouais, oui, il y a quand même. Ils sont plus. Il y a plus des... Plus tard, il est devenu vraiment minimaliste, disons. Ils sont un peu moins minimalistes, mais quand même, il y a une densité ou une concentration. Et j'ai trouvé dans les traductions qui existaient déjà que les phrases étaient super longues. Il n'y a pas cette densité-là, cette concentration. Donc je voulais essayer de faire ma version.
Voilà, mais ça ne s'est pas concrétisé dans une simple traduction.
Non.
C'est devenu un projet de création impliquant de la photographie et aussi un jeu avec le vocabulaire que tu avais donné la traduction.
Oui, donc ce livre-là, Limbinal, c'est tout le livre en entier et une exploration des différentes idées sur les frontières entre... les frontières géographiques, historiques, linguistiques, physiques, etc. Et une des façons que j'ai exploré ces frontières, que je l'ai mis un peu plus floues, évidemment, c'est que... Donc, il y a ces traductions-là que j'ai faites de porcelaine dans le livre, mais après... que j'ai fait ce travail-là, j'ai aussi utilisé le lexique de mes traductions comme un vocabulaire que j'ai utilisé pour écrire d'autres séries de poèmes. Et ça, c'est aussi dans le livre. Donc, il y a un certain vocabulaire qui se répète, mais dans des contextes très différents, et qui est à la racine... Ça vient un peu de porcelaine, mais c'est sûr que ça vient de mes traductions de porcelaine. Mm-hmm. Donc, c'est pas toujours vraiment porcelaine, c'est moi aussi. Et donc, ça, c'était une des façons. Mais j'ai aussi écrit des textes comme... parce que moi, j'habite à Montréal, qui est une île entourée de l'eau. Lui, il habite à Paris. L'eau est comme... La Seine est là, comme... j'ai aussi écrit un texte un peu imaginatif entre nos deux locus géographiques et l'importance de ces géographies-là, peut-être, dans les pensées de chacun. Donc, entre autres, il y a d'autres textes, mais entre autres, j'ai un peu ouvert les frontières de la traduction dans le livre.
Alors, je nous fais avancer encore un peu dans le temps vers un livre qui, en anglais, s'appelle 8-Track, et qui, celui-là, a été traduit en français. Pour le moment, c'est ton seul livre entier traduit en français par Erin Mouré, au norrois.
Et très récemment.
Très récemment, voilà.
L'année passée.
Ces dernières années.
Oui.
Et avant d'en discuter, écoutons une œuvre qui accompagne, une œuvre audio là, qui accompagne ta création. Alors, avant qu'on présente le projet de livre en entier, est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette piste qu'on a entendue?
Oui, donc ça, c'est le dernier... Le livre, en fait, qui est surtout construit des mots pour la plupart et des images, se finit dans cette piste bonus, en fait, qui est une œuvre sonore hors du livre. donc le livre sort du livre à la fin. Et parce que les choses que j'ai explorées dans ce livre-là, cette fois, c'était... les différents sens du mot piste qui en anglais est track, qui est les sens, le sonore, les traces, la surveillance, des choses comme ça. Et pour cette œuvre-là, j'ai utilisé les sons qui viennent des choses qui... des pistes, mm-hmm. en fait, comme le radar ou le sonar. Mm-hmm. Donc, tous les sons viennent sont des matériels de choses qui sont utilisés pour dépister ou pour...
Voilà.
Oui, ouais.
Oui, le vocabulaire autour de ça, piste, dépisté, pisteur, pisteuse, est extrêmement riche. Au fond, une espèce de petite définition de toutes ces dérivées-là du mot piste ouvre chacune des sections de 8 pistes. Mais il y a eu un jeu intéressant avec la traduction, parce qu'en anglais, tu pouvais simplement décliner tous les sens du mot track. Mais là, quand t'es venu, le temps de le faire en français, fallait aller avec la famille des mots plutôt qu'avec simplement le mot. Donc, il y a un moment avec Erin où vous avez décidé que tu allais carrément réécrire, parce que tu maîtrises très bien le français, tu allais réécrire les notes introductives avec ce vocabulaire-là.
Oui, parce que chaque section du livre est introduite par une définition de mot mm-hmm. track ou piste. Mais c'est ça, j'ai recrit toutes ces définitions-là parce que tous les sens du track que j'ai utilisé en anglais ne marchaient pas en français parce que ce n'est pas le même mot, ça n'existe pas toujours. L'adéquation n'est pas exacte, bien sûr. Et c'est ça, je suis allée comme déjà avoir une traduction, c'est déjà... créer des nouveaux pistes,
oui,
d'aller dans une... C'est déjà comme une multiplicité, ça, c'est un ajout. Donc, ça marchait même pour moi de décliner le mot.
Et en faire une œuvre, presque une seconde œuvre originale.
Oui, c'est ça.
En français.
Oui, oui, oui.
Il y aurait énormément à dire sur chacune des sections. On n'aura pas le temps de le faire ce soir, mais je voudrais m'arrêter sur une section en particulier parce que je trouve que ça permet de parler de l'aspect politique de ton travail puis aussi des enjeux politiques de la traduction. Alors, il y a une des sections qui est d'ailleurs un peu plus en prose qu'en poésie, si on veut, mais ta poésie n'est jamais très loin de la prose ou de l'essai. On revient à tes trois champs de ton bac en création. Essai, poésie, traduction,
oui,
tout
ça.
Est toujours là.
Ouais.
Donc, il y a une des sections qui est une espèce de procès-verbal d'une discussion de validation de l'expérience d'une personne exilée.
Oui.
Donc, elle rencontre une agente administrative, la personne, et elle doit prouver que son exil était vraiment pour des raisons politiques. Et comme la personne qui l'interview ne parle pas la langue, bien, il y a un interprète qui traduit. Et puis là, il y a des questions extrêmement invasives, comme pour valider qu'il n'est pas en train de jouer un personnage et qu'il a vraiment vécu les choses terribles qui sont vécues. Puis tout ça passe par l'interprète qui est obligé de traduire ça sur la page. D'où est venue l'idée de cette scène? Comment tu l'as construite?
Donc, ça, c'est basé sur les recherches que j'ai faites. Et ça s'est passé beaucoup, surtout en Europe, mais pour quand il y a des gens qui demandent l'asile politique... mais parce qu'ils ont fui de leur pays, de leur place, ils n'ont pas des pièces d'identité. Donc, ce qui était utilisé beaucoup, c'est un test verbal qui s'appelle LADO, et l'acronyme est... j'oublie pour le moment, c'est quoi l'acronyme de celui-là?
Peu importe, ne l'invoquons pas.
Oui, mais... Mais c'est un test, c'est ça, de questions pour voir si la personne connaît vraiment les choses locales d'où la personne dit qu'il vient. des spécificités de la langue locale ou les dialectes qui se parlent, mm-hmm. mais tout se fait par une interprète parce que donc il y a une énorme et ce test-là peut valider ou invalider la demande de la personne, mais d'avoir donc c'est basé sur la langue, mais c'est basé sur l'interprétation, ouais. c'est basé sur une énorme chance de incompréhension mm-hmm. ou de miscommunication ou de ouais. De interprétation des choses.
Le jeu ou le décalage qui est tellement riche dans ton travail ou dans le travail d'Erin sur ton travail, dans la situation que tu rapportes, devient d'une grande cruauté.
Oui, 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 oui. Et aussi...
D'un grand arbitraire aussi.
Oui, et moi, j'ai choisi, en fait, la forme que j'ai écrite. Comme j'ai dit, j'ai lu... parce que j'ai trouvé des exemplaires de cette sorte d'entrevue. Et j'ai lu plusieurs. Et après, j'ai écrit... Mais la chose que j'ai écrite, c'est complètement inventé. C'est pas basé sur un cas réel. Mais c'est écrit dans une forme de drame radiophonique. Oui. Donc ça, c'est le format que j'ai pris. Parce que c'est une forme orale, en fait, la trame radiophonique. Et aussi, j'ai introduit un autre personnage qui est le son, qui devient une sorte de personne. C'est le son dans la salle d'entrevue qui devient une sorte de... Pour moi, c'est comme un personnage, mais c'est comme une interruption ou des fois, c'est invasif, des fois, ça interrompt. Mais bien sûr, tout est écrit dans une langue.
Voilà.
En anglais et après en français. Mais pour moi, c'était comment montrer cet glissement de sens qui vient assez mm-hmm. Facilement. Si on dit le mot Provence versus le mot État, par exemple, mm-hmm. Ça peut avoir des sens très différents, mm-hmm. mais si la personne dit Provence, mais c'est traduit par un mot qui est plus proche d'État, ça peut créer une...
Oui, donner l'impression que la personne ne connaît pas les détails de l'organisation politique. Je nous fais avancer dans ton travail pour qu'on puisse terminer la conversation en parlant plutôt de traduction. Donc, tu as traduit beaucoup de choses. C'est pour livre de Bertrand Laverdure que tu as gagné ton prix du gouverneur général, mais la traduction que tu avais envie de mettre de l'avant, et je suis très content que tu aies voulu le faire, c'est celle de Catherine Lalonde que tu as fait, The Fairy Devouring, La dévoration des fées. En français, les lectoristes francophones connaissent Catherine Lalonde comme journaliste au Devoir, mais c'est aussi une très, très, très bonne poète. Ce livre-là présentait un énorme défi de traduction. Tu en parles dans le mot à la fin du livre, le mot de la traductrice, qu'il y avait toutes sortes de registres de langues. Catherine touche vraiment à tout, du très, très familier au très vulgaire, à un espèce de français un peu ancien, à un français de tous les jours, à quelque chose d'un peu plus soutenu. Donc, comment tu as travaillé avec Catherine, puis avec sa langue, pour essayer de rendre ce livre-là en anglais?
C'est ça, il y a aussi, il y a beaucoup de... Il y a comme, des fois, c'est une fable, mais c'est pas vraiment une fable. Des fois, c'est... mais j'ai juste... comment j'ai travaillé, j'ai juste essayé de... écouter à tous ces registres-là. Mm-hmm. Et leur redonner une forme en anglais, mais aussi parce que elle est aussi sa langage est très sonore aussi.
Oui, tout à fait.
Le sens de ou le mouvement d'une phrase à l'autre est beaucoup. Le sonore est très important. C'est pas anodin. C'est pas mais le sens reste, il y a un sens là-bas, mais il y a aussi comme une musicalité qui... et ça, ça, c'est vraiment un travail de beaucoup et beaucoup des versions. Je le refais. Et aussi, j'ai beaucoup écrit ce livre à voix haute. Mm-hmm. Donc, je traduisais, mais après, je lisais à voix haute pour voir ce que ça donne en anglais et comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que j'aime mieux ou quelle... et que ça donne une musique en anglais qui a, il y a proche de l'esprit de la musique en français que, j'a, que, mm-hmm. que j'entends.
Dans laquelle il y a aussi beaucoup d'humour, il y a un
oui.
train d'humour décalé.
Oui, oui.
Et je trouve que vous partagez en réfléchissant après à pourquoi ça t'avait été si, si fort pour toi, cet appel-là que tu avais eu pour son œuvre. Puis je pense que ça continue, que tu aimes aussi ses autres recueils. Vous partagez une espèce d'idée du poème, oui, mais du livre. L'idée, c'est le livre. Et on
oui.
sent dans les poèmes, dans les livres de Catherine, qu'il y a une flèche. On part au premier poème, mais on sait où on s'en va au dernier poème. Il y a un, le chemin est très clair.
Oui, et c'est drôle parce que ce livre-là, en fait, en français, est vendu comme un livre de poésie. Mais en anglais, c'était, c'était mis en vente comme un livre de prose. Comme un roman, presque. c'était un peu... mais qui, à la fin, c'était un bizarre choix parce que, en fait, les gens qui... On a eu des critiques qui le lisaient comme un roman et ça ne marche pas vraiment comme un roman à la fin. Donc, donc c'est facile de dire ben, c'est pas un roman, mais il y a des personnages, il y a des voix. Il y a un certain narratif aussi, mais c'est très... loose, c'est que c'est très, mm-hmm. C'est plus le pulsion de la langage qui propulse le texte. Mm-hmm. C'est pas le l'histoire.
C'est ça.
C'est un peu l'histoire, mais c'est pas l'histoire.
Le monde entier réagit à l'horreur là entre guillemets du féminin.
Oui,
c'est cette
oui,
histoire là qui
oui.
est racontée dans le langage.
Oui, oui.
Qui est très très intéressante. Je me déplace un peu vers l'esprit avec lequel tu traduis. Donc, on voit très bien là, déjà à travers notre discussion que pour toi, une traduction, c'est aussi une œuvre de création. C'est une traduction en particulier. Tu t'imagines pas jamais que tu peux disparaître dans ta traduction.
Non. Non.
Voilà. Donc, c'est toujours une version. Donc, j'imagine que tu es très à l'aise avec le mot que de plus en plus de gens utilisent de tradaptation. Ou est-ce que pour toi, tradaptation, ça va trop loin? Puis ce serait plus pour des trucs comme ce que tu as fait avec Céline?
J'aimerais quand même les appels traduction ouais. parce que pour moi, j'essaie de rendre ce livre dans ouais. l'autre langue. Mais ce que je rends dans l'autre langue, c'est ma lecture de ce livre-là. Donc, ma lecture est une chose subjective mm-hmm. à la fin du compte. Parce que ça, c'est basé sur mes expériences, ma savoir, qui change, bien sûr, mais avec le temps. Mais donc, ma lecture du livre est une expérience subjective. Donc, cette subjectivité reste dans la traduction.
Il y a d'ailleurs, tu as une approche tellement subjective puis tellement ouverte, justement, quand tu entres en dialogue avec un texte pour essayer de le comprendre et le rendre, qu'une chose passionnante que tu m'as dite sur la raison pour laquelle tu réalises de plus en plus que tu ne veux pas traduire trop de livres d'un même artiste. Pourquoi?
Oui, c'est parce que je pense que quand j'ai réalisé ça avec l'expérience, mais si je traduis trop de cette... Je rentre trop dans leur monde, je me sens que je le connais un peu trop. Ça reste moi étranger, peut-être. Mm-hmm. Et cette étrangeté-là, pour moi, c'est inspirant. Ça me donne des idées, comment le traduire, comment le... réécrire, parce que avec la littérature, surtout, c'est pas juste traduit, on le réécrit aussi. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de contamination? Est-ce que tu as l'impression qu'à passer trop de temps dans une poétique, ça finirait par...
Un peu aussi, peut-être plus d'une façon d'une temporalité, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps d'être... Pour traduire un livre, on est dans le monde de l'auteur pour un temps très intense et pour beaucoup de temps. Et si je suis dans le même monde, pour trop de temps, ma monde comme écrivain devient un peu trop loin, peut-être.
Oui.
Donc j'aimerais quand même trouver un équilibre entre ces mondes-là. Et je pense que c'est ça. c'est plus saine pour moi de
oui, je comprends.
Pour mon écriture aussi. Oui,
je comprends. J'ai entendu Daphné B dire quelque chose de très similaire après qu'elle ait passé deux recueils de poésie dans le travail d'une même poète. Elle avait dit j'avais envie d'y aller pour qu'il y ait un travail d'appropriation. Pas un travail d'appropriation qui nie la singularité de l'autre, mais quand même un travail d'appropriation. Puis à un certain moment, j'ai réalisé que c'était trop, que là, ça allait influencer mon travail d'une façon où... Puis je dois dire que moi, je l'ai vécu aussi à un moment où j'étais tellement investi dans un travail de traduction de Lisa Arbuton, qui est une poète que tu connais très bien, où j'étais dans la réécriture, tout ça, puis je cherchais des façons, puis j'étais arrivé à un moment où je comprenais vraiment l'enchaînement de ces phrases. Puis un jour, j'étais en train de composer un courriel, puis je me suis dit, mais voyons, Jeannot, t'es en train d'imiter Lisa. Arrête, là, ça, c'est... Il faut qu'il y ait un espace séparé pour, pour ta propre écriture.
Oui.
Alors... Il y a une question intéressante qui se pose en français, qui se pose différemment en anglais, mais à laquelle tu t'es mis à réfléchir plus souvent récemment. Puis je pense que ça a été accéléré par le travail avec Erin sur la traduction de 8 pistes. C'est la fameuse question de la langue inclusive. Parce qu'en anglais, les choses sont beaucoup plus neutres, même s'il y a aussi un certain dégenrement ou démasculinisation qui peut être faite. Mais quand on arrive en français, on doit tout de suite se poser la question ces années-ci. On ne peut pas faire l'économie de choisir comment on va rendre le neutre. Puis, il y a tout un travail qui a été fait ces dernières années qui a politisé la présence du masculin neutre. Donc, on se retrouve à être obligé de faire des choix. Donc, Erin et toi avez choisi pour 8 pistes d'y aller avec des formes d'écriture inclusive qui sont intéressantes. Mais tu m'as dit qu'en réfléchissant avec elle, tu t'es dit que ça t'avait amené à réfléchir au fait que si tu avais réécrit même le texte original en anglais, ça aurait changé ta façon d'aller penser le neutre ou le genre dans la version anglaise.
Non,
je suis intéressée par ce travail de miroir-là.
Je pense que, ce que j'ai pensé plus, c'est que si j'écrivais le texte en français...
si tu l'écrivais directement en français.
Oui, ça peut-être que je l'écrirais différemment. Ou d'approcher cette neutralité différemment. Mais bon, c'est pas ça que c'était fait. J'écris le texte en anglais initialement, donc... mais je trouve cette direction de la langage inclusive très intéressant et fascinant. Je pense que ça mérite d'être continué, exploré plus pour peut-être arriver à d'autres solutions pas encore pensées.
Oui.
C'est en développement, mais je pense que c'est très intéressant parce que c'est sûr que pour moi, disons, en tant que femme, de lire un texte qui parle juste sur le masculin, je ne me vois pas vraiment dans ce texte-là. Je me reconnais moins. Donc,
c'est une des rares choses qui a été prouvée par des recherches scientifiques dans la reconnaissance des gens dans les textes genrés au masculin. Bien, l'image qui apparaît dans le cerveau est vraiment l'image d'une personne masculine.
Bien, c'est ça.
C'est une des choses qui a été établie. Je suis intéressé par, moi, cette idée-là que ça nous amène à penser, comme traductrice, le fait que la langue inclusive, les solutions, on est en train de les inventer. Donc, les solutions qu'Erin a choisies avec l'équipe d'édition au Norrois, c'est peut-être des solutions qui vont être moins à la mode dans 10 ans, être moins à la mode dans 20 ans. Donc, on approche de quelque chose d'éphémère, puis on l'accepte, qu'on est en train d'expérimenter avec tout ça. Mais au fond, ça nous amène à penser aussi au caractère très éphémère de toute traduction, parce que la langue change énormément.
Oh, absolument, oui.
Et on le voit avec les traductions de Shakespeare, par exemple, qui peuvent s'étendre sur le temps, mais aussi, même si ce n'est pas sur des siècles, les traductions de Proust ont énormément changé en 100 ans, au point où parfois on ne les reconnaît pas d'un à l'autre.
Non, une traduction est toujours ancrée dans son temps, dans son époque, dans son temporalité. Et ça, moi, je trouve extrêmement intéressant d'avoir différentes traductions d'une même œuvre pendant les différentes époques, parce que ça nous montre aussi des choses de cette époque-là. Qui est intéressant, qui est fascinant. C'est dans un monde idéal, il y a toujours plusieurs traductions ouais. d'une même œuvre, mais bon, ça oui, arrive ça. Plus rarement, mais c'est une belle chose. À...
On va commencer par ouais. souhaiter qu'il y ait davantage de tes œuvres qui soient traduites
oui,
avant de penser à la version 2 et 3.
Ça sera... ouais, déjà, ben, c'est ça, ou d'autres livres, mais déjà d'avoir une première, c'était pour moi super excitant et important. Et ça aussi, en tant que... J'habite à Montréal depuis 26 ans et j'écris ici. Toute ma vie d'écrivain, en fait, est vraiment développée ici. Mais j'étais un peu invisible parce que je n'avais pas une œuvre en français. Donc, c'est aussi une sorte... Ça donne accès à d'autres... Même si dans mon milieu, je fréquente beaucoup tout les milieux, les langues sont... Mais c'est juste comme, en tant qu'écrivain, j'étais un peu invisible.
Oui, tout
donc,
à fait.
Comme traductrice, plus visible, mais comme écrivain. Donc, ça rend une visibilité aussi. Ça donne une visibilité qui n'était pas avant.
Le dernier sujet d'actualité pour nous, personnes traductrices, que je voudrais aborder avec toi, pour conclure, est un peu incontournable ces années-ci, c'est l'intelligence artificielle. On y réfléchit énormément, la traduction assistée par l'intelligence artificielle. Et quand on en a parlé, ton point de vue était intéressant parce qu'il déplaçait un peu la focale. Au fond, j'ai l'impression que pour toi, tous les outils qui peuvent permettre de bonifier justement notre coffre à outils pour jouer avec la traduction peuvent être intéressants. Et t'entendant parler de ça, ça me renvoyait justement à ton œuvre, à quel point elle est d'une certaine façon ludique. Est-ce que tu cherches toujours des outils qui vont aller comme changer ton rapport à la langue ou le déplacer ou te permettre d'expérimenter davantage? Donc voilà, je voulais te donner l'occasion de parler de ça. J'avais l'impression que pour toi, c'était quelque chose qui n'était pas aussi inquiétant que ça peut l'être pour d'autres personnes de notre milieu.
Non, je pense que c'est quelque chose que c'est intéressant de voir comment composer avec. Bon, oui, c'est ça. Pour moi, c'est juste un autre outil. Ça dépend comment on l'utilise, mais ça ne remplace pas d'autres choses. C'est juste ça ajoute. C'est un ajout, mais ce n'est pas un remplacement. Ouais. Je pense que les gens. Je pense que l'inquiétude vient du fait qu'on pense à ça comme un remplacement. Ça veut dire que ça remplace les humains, ça remplace les... mais je pense que si on ne le pense pas comme un remplacement, mais comme un ajout, comme une autre voie, une autre façon d'interagir avec, ça déplace un peu peut-être l'inquiétude. Je ne sais pas. Je préfère penser comme ça. En tout cas, c'est une chose qui... Si j'ai une inquiétude dessus, ça ne va faire rien. Ça va continuer. Ça ne va pas disparaître. On voit dans cette direction et là et avec nous. Donc, c'est... L'inquiétude fait un peu... ça ne va pas l'arrêter.
Est-ce que tu as été amusée par le dernier roman de Shawn Michaels dans lequel il crée une poète qui est invitée à créer de la poésie avec une intelligence, en dialogue avec une intelligence artificielle?
Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est...
Mais à t'entendre, j'ai l'impression que c'est un roman qui pourrait t'amuser.
Oui.
Alors, merci beaucoup, Anna, pour inviter les éditeuristes à entrer en contact avec toi pour travailler en ta compagnie. J'avais envie de conclure en te demandant si tu avais un fantasme de traduction, s'il y avait un livre que tu aimerais vraiment si un éditeur te disait, Anna, traduis ça pour nous.
c'est plus un fantasme comme, parce que ça sera vraiment un défi énorme linguistique. Mais il y a un livre de Hélène Sissou. Un vieux livre d'elle qui s'appelle Parties, qui est en deux parties, en fait. Et une, c'est sur le sujet de plus je, qu'elle appelle plus je, et l'autre sur le sujet de si je. Et il y a une énorme, c'est poétique, philosophique, mais avec un jeu de mots constante. Elle invente, elle met des parties des mots ensemble pour créer des comme une autre langue, en fait. Mais c'est français, mais c'est pas français. Et ça sera mais plus comme un fantasme du défi linguistique. Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai même commencé, j'ai essayé de traduire comme un paragraphe et j'ai passé beaucoup, beaucoup des heures et j'ai avancé comme trois phrases. mais ça sera...
Un défi au long cours.
Oui, 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 oui. Mais c'est plus comme un petit rêve.
C'était la version originale, un balado de la TTLC. Je m'appelle Jeanne Auclair. Merci à Benoît Côté et à Wana Avasilikiai. On se retrouve dans le prochain épisode avec Catherine Ego. À bientôt.
What we have learned is that we think that we speak a language, but it is the language that speaks us.